Je remercie les uns les autres d'être venus écouter Slobodan Milačić. Je pense que je vais mettre le bon accent. Enfin, on en rediscutera peut-être. Pour la présentation de son ouvrage qu'il a intitulé « De l'âge idéologique à l'âge politique » avec un sous-titre qui, s'il vous avait échappé, ne vous échappera plus désormais puisque je vais le lire, « L'Europe post-communiste vers la démocratie pluraliste ». Donc, je voudrais d'abord commencer par présenter brièvement Slobodan Milasic, qui est un de mes collègues et amis, surtout amis, encore plus que collègues. En tous les cas, c'est la qualité à laquelle je tiens davantage encore que celle de collègues. De longue date, donc, Slobodan a fait toute sa carrière, l'essentiel de sa carrière, pas toute sa carrière, mais l'essentiel de sa carrière à la faculté de droit, de sciences économiques, de sciences politiques de Bordeaux. Il a enseigné à la fois dans cette faculté et à l'Institut d'études politiques. Il a enseigné naturellement dans de nombreuses autres universités comme enseignant invité. Et puis, comme ça ne peut pas vous avoir échappé, c'est pour ça que j'avais un peu lourdement peut-être insisté sur son nom, il est d'origine serbe. Il connaît bien donc non seulement l'ex-Yougoslavie, mais encore l'ensemble des pays qui sont devenus post-communistes après avoir été pendant longtemps communistes. Et donc il a consacré une très grande partie de son travail pendant de nombreuses années à l'observation de ces démocraties en transition, de ces changements de régime qui aujourd'hui nous paraissent être entrés dans une sorte de banalité. Mais je pense qu'il dira et qu'on verra que entrer dans la banalité, si tant est que ça soit vrai d'ailleurs, ça n'est pas si facile et ça ne se fait pas si simplement. L'Europe post-communiste, l'Europe que l'on appelait autrefois Europe de l'Est, qu'on a appelé ensuite pays d'Europe centrale et orientale, l'Europe post-communiste, c'est un ensemble extrêmement vaste et c'est son terrain. C'est-à-dire que c'est là, sur ces régimes qu'il a travaillé empiriquement. Mais son véritable objet, et c'est pour ça que le sous-titre est surmonté d'un titre plus abstrait, son véritable objet, en réalité, c'est la théorie de la démocratie. Slobodan a toujours travaillé sur la théorie de la démocratie. C'est ce qui l'intéresse, à mon avis, profondément. Il est aussi un théoricien des régimes politiques. Il est un théoricien de l'état de droit. L'état, la démocratie et finalement leur confrontation aujourd'hui avec l'autre grand acteur qui est le marché, bien, c'est ça qui est central dans sa problématique. Autrement dit, cet ouvrage, alors vous avez remarqué que les ouvrages ont tendance à être de plus en plus petits, bref, mais il y a des auteurs qui sont à contre-courant. Hein, et il se situe parmi ceux-là. Donc il a fait un peu épais. Il a fait épais parce que évidemment, quantitativement, matériellement, je ne parle pas du contenu intellectuel. Il a fait épais parce que cet ouvrage rassemble une série de travaux qui ont été faits au fil de la carrière, précisément, au fil de l'eau, d'une certaine façon. Il les a rassemblés en donnant du sens au classement, qui n'est pas un classement purement chronologique de ses travaux. Il les a rassemblés et il peut, comme ça, faire une espèce de... Moi, j'appellerais ça peut-être une rétrospection sur... l'ensemble de sa réflexion, qui n'est pas à proprement parler, bien sûr, un état des lieux de ces pays post-communistes, mais qui est bien davantage, encore une fois, une réflexion plutôt théorisante sur la manière dont on organise les transitions. Alors, si vous permettez, je vais évidemment lui céder le plus rapidement possible la parole, parce que c'est lui que vous êtes venu écouter, non pas moi. Je pense que je voudrais commencer peut-être par lui poser quelques questions. Ensuite, bien sûr, nous ferons comme d'habitude, la salle aura la possibilité d'intervenir, soit pour poser des questions, soit pour demander des explications, soit pour contester ce qui aura été dit, dans tous les sens. La parole est totalement libre, bien sûr. Je voudrais commencer par lui poser deux questions qui sont peut-être les plus difficiles. les plus rébarbatives aussi, aux deux questions auxquelles je donnerai peut-être un sens un peu presque méthodologique ou épistémologique, les deux choses se rejoignant en l'occurrence. Slobodan, qui donc a fait toutes ses études supérieures en France, qui évidemment est totalement imprégné par la culture française, n'a pas non plus quitté sa culture d'origine. Il a, comme il le dit dans sa préface à son ouvrage, il a abordé ces pays de l'ancienne Europe de l'Est avec une équation personnelle. Moi, la première question que je voudrais lui poser, c'est comment fait-on avec cette équation personnelle, justement, lorsque on est à la fois au contact et éloigné de son terrain, comment fait-on pour prendre suffisamment de distance critique avec son objet sans pour autant, évidemment, le tenir à distance, sans le rejeter? Quel problème ça lui a posé? Et je pense que dans cette approche-là, il y a une vraie question, s'agissant bien sûr d'un travail scientifique. Hein. On n'est pas là en présence de quelqu'un qui prend un parti, qui écrit un essai, qui écrit ce qu'il croit. Non, il s'efforce, encore une fois, de saisir son terrain dans ses mutations, dans ses mouvances, pour en tirer des enseignements à portée beaucoup plus générale et des enseignements qui se veulent scientifiques. On pourrait avoir un grand débat sur la question de savoir si les sciences sociales et humaines sont des sciences. Moi, je crois que oui. Les sciences ne sont pas toutes exactes. Hein. Les sciences du vivant ne sont pas plus exactes que beaucoup de sciences humaines. Elles touchent aux sciences humaines très largement. Elles sont pourtant classées dans ces sciences exactes très fréquemment. Bon. Mais il y a un vrai problème, c'est comment fait-on pour ne pas se laisser piéger, finalement, par ses a priori, par ses préjugés, par sa culture. C'est un terrain et un terme qu'on retrouvera un peu plus loin. Donc voilà, je commence peut-être par le plus difficile, mais je sais qu'il a, il a largement de quoi répondre à la question.
Oui. Mais quand on a trop à répondre, c'est aussi un piège que quand on n'a pas assez. C'est ce qu'on appellerait dans le métier la question d'attaque, avec toute l'ambiguïté que peut connoter cette expression. Nous n'avons pas répété le scénario d'aujourd'hui. On se connaît depuis longtemps et j'espère que ça va venir comme il faut spontanément. Oui, c'est plus le professeur que l'auteur alors qui va répondre à cette question éternelle et fondamentale de l'épistémologie. Comment s'oublier dans son travail? Parce que l'homme travaille sur l'homme et puis s'investit subjectivement nécessairement avec son affect, avec ses sentiments et avec ses idées. Alors, c'est un problème qui se pose peut-être à toi plus qu'à moi. Et je vais m'expliquer. En toi que monoculturel plutôt qu'à moi biculturel. Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est vrai que c'est à la fois la limite et le charme de nos disciplines. Parce que c'est l'homme qui travaille sur l'homme, et donc s'il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas de charme, il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est l'éternelle question que j'ai rencontrée tout au long de ma vie, de plus de 50 ans de vie bordelaise, en me disant, voilà, ce garçon a une double culture. Et je n'ai jamais, d'abord intuitivement et ensuite intellectuellement, pu accepter cette formule, parce que la double culture, ça veut dire double identité. Et je pense que conceptuellement, ça ne tient pas la route, la double identité. Je ne peux pas être d'origine yougoslave, je te signale, sans cacher mon origine locale, mon localisme de l'époque, mais... Donc, je pense que quand on a eu à affronter finalement deux cultures, on est plus libéré de ce poids que quand on n'est qu'un produit d'une culture plus éprouvée, plus cohérente, historiquement mieux cristallisée. Moi, je sais que pendant 50 ans de culturation ou d'acculturation à la française, je me suis posé en permanence cette question et j'ai rangé les choses dans mes tiroirs intellectuels comme j'ai pu, de sorte que je pense que cette double culturation donne un sens de la relativité de choses plus pointu et une pulsion d'ouverture plus sûre. Donc, avec ça, au moment où je me suis intéressé à la transition démocratique, c'était après les années 90, j'étais déjà mûr, et peut-être au début du pourrissement déjà. Donc, je ne me suis même pas inquiété de cette problématique d'aborder. Alors, effectivement, il y avait... il y avait un affect qui a joué. À un certain moment, ma double culture, je voulais la définir jusqu'à la ceinture et au-dessus de la ceinture. Jusqu'à l'affect, c'était les origines qui comptaient, et sur le plan intellectuel, c'était la culturation française. Et puis j'ai vu que c'était très mécaniste et idiot d'opposer l'intelligence et l'affect, parce que ça communique. C'était pas peut-être évident, mais ça communique. Donc, pour moi, c'était pas un problème. Il y avait... peut-être un problème, mais je ne vais pas soulever cette question maintenant parce qu'elle est déjà en voie d'apaisement. À l'époque des guerres yougoslaves, quand j'ai vu une sorte d'approche manichéenne de cette problématique dans un pays de culture démocratique, pluraliste, différenciée, où les choses se présentaient de façon extrémiste, le bien et le mal s'affrontaient sans nuance, en deux temps, trois mouvements, les gens ont recyclé leur hiérarchie de valeurs, leurs repères historiques, etc., en fonction de quelques événements tragiques ou dramatiques, ça m'avait un peu perturbé sur la fragilité de la culture démocratique. J'ai eu à affronter souvent, au cours de mes années d'études, de mes années d'enseignant, comme on dit maintenant, de professeur, toujours une sorte de l'expression d'amitié traditionnelle, serbo-française, depuis des siècles, depuis des guerres, etc. Et puis du jour au lendemain, dans le salon des professeurs, j'ai vu une attaque, pas directe, parce que j'avais des relations normales ou amicales avec les gens, une interrogation qui a complètement bouleversé la hiérarchie de valeurs, les repères historiques, etc. C'est tout, vous voyez, peut-être c'est ça qui m'a permis, par exemple, cette double formation, de prendre conscience de la relativité et de la fragilité de la démocratie et même de la culture démocratique, qui est donc à ressourcer à tous les instants. Principe de précaution et principe de vigilance. Peut-être que c'est un des aspects, mais c'est un aspect un peu marginal et préalable. On n'en a jamais parlé, mais cette formulation m'est venue à l'esprit à l'instant. Tu vois, c'est toujours, il faut un amphi pour avoir des idées.
Voilà. Oui, n'empêche qu'on est déterminé dans son choix d'études. Ce n'est pas un hasard, probablement, si tu as fondé le Centre d'études et recherches sur les Balkans. Le choix d'études est quand même généralement surdéterminé. Je sais que c'est un terme que tu aimes bien. Surdéterminé, oui, par des attachements culturels, par des origines. Il y a une commodité aussi. Tu peux, de ce point de vue-là, répondre que la communauté linguistique, par exemple, d'accession directe à des textes en langue originale est quelque chose d'important pour un chercheur. Mais je crois que dans le choix même de l'objet sur lequel on va travailler, il y a souvent cette espèce de pulsion, non ?
Oui, certainement. Bon, sans approfondir ça, certainement. Mais ce que je voudrais transmettre, c'est surtout, ça c'est une vérité subjective vécue, pendant toutes ces années de guerre où j'ai dû affronter ces événements, les deux profils des événements, j'ai été vraiment dans l'obsession de la culture démocratique et de cette fragilité, cette nécessité de travailler la théorie démocratique et de réfléchir sur la fragilité des opinions démocratiques. La façon dont les opinions publiques, notamment, plus que le corps électoral, pouvaient être retournées en deux temps, trois mouvements. Et du poids des événements sur les idées et les sentiments. C'est-à-dire que dans l'évolution de la démocratie, la prégnance ou la prégnance de l'opinion publique sur les mécanismes institutionnels de la démocratie représentative, au-delà d'un certain seuil, devient un véritable piège démagogique au bon fonctionnement démocratique. Et c'est surtout dans cette optique-là. Au début, il y avait un côté anecdotique, c'est-à-dire que dans tout ce qui s'est produit, moi, je ne pouvais pas rester, comme on le dirait Moiron, un spectateur complètement inactif. Et donc, ma voie d'engagement, c'était ça. Ma voie d'engagement, c'était de rappeler la possibilité d'un travail distancé, analytique, qui ne travaille pas en se serrant près des événements et de l'information médiatique, hein, parce qu'à l'époque, on ne vivait que de ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait penser la problématique de la transition que ce que les médias nous donnaient. Et moi, j'ai essayé de voir si il y a un certain recul, une certaine distance de regard qui se réfère à la culture, à des données plus structurelles, plus permanentes, plus historiques, pouvait tempérer et devait tempérer les émotions de l'opinion publique.
Bon, une deuxième question également un peu préalable, finalement. Tu travailles sur des transitions, donc, de l'âge idéologique à l'âge politique, ces transitions qui ont été marquées par la chute du mur en 89 et le passage des pays ex-Europe de l'Est à la démocratie pluraliste, à la démocratie occidentale, entre guillemets. Et finalement, il y a eu une espèce de généralisation de ces situations de transition dans le monde contemporain. Ça a peut-être commencé par l'Afrique du Sud avec l'abandon de l'apartheid, ensuite par les pays d'Europe centrale et orientale. On assiste actuellement à une transition dans les pays du Maghreb, dans le monde arabo-musulman, enfin dans une partie au moins du monde arabo-musulman. Et tout ça a donné lieu finalement à une espèce de sous-discipline dans notre secteur des sciences juridiques, politiques, économiques, bon, qui est la transitologie. Alors, j'aimerais, parce que dans ton texte, dans ton ouvrage, il y a un texte sur ce que tu appelles la transitologie critique. J'aimerais que tu reviennes un peu sur la façon, là aussi, ou les précautions qu'il y a lieu de prendre avec cette notion de transitologie ou avec cette approche des problèmes qui peut-être doit questionner la propre grille d'analyse qu'elle s'est forgée, finalement. Qu'est-ce que tu appelles, au fond, la transitologie critique ?
Ce n'est pas malheureusement moi qui appelle ça, mais le discours ambiant qualifie ça de transitologie. Oui, c'est un vaste problème. Je pense que pour bien comprendre les choses, il faut les globaliser. Mes vieux professeurs disaient toujours, il n'y a de théorie, c'est-à-dire d'explication et de compréhension que du général. Aujourd'hui, on dirait plutôt global. Et donc, c'est ça. Je pense que c'est une pulsion idéologique très à la mode, et c'est une vision mondialiste de la démocratie qui, au moins dans nos discours, est proclamée comme le modèle unique de référence légitime vers laquelle doivent confluer toutes les évolutions. Et donc on postule que tout ce qui bouge, bouge dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du choix démocratique. Je pense que maintenant, lorsque les gens commencent à étudier ces transitions, ils se créent des spécialités. Transition africaine, transition asiatique, transition latino-américaine, etc. Donc, et ils verront que toutes ces transitions sont très différentes. Avant qu'on ait su dans les pays, en Libye, qui est qui veut quoi, on avait tout de suite décrété que c'était un mouvement démocratique, libéral, qui veut. Il y a beaucoup d'idéologies et beaucoup de pensées uniques dans cette façon de faire. Donc les transitions, c'est vrai que le monde bouge de plus en plus vite, mais pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est que le mot n'est pas de moi, il est de Targiev, que c'est du bougisme. Ça bouge, mais on ne sait pas où ça mène. Donc, je suis très prudent sur la pertinence de cette catégorie un peu fourre-tout qui consiste à parler des transitions démocratiques partout où il y a des révoltes. Et c'est un confort intellectuel qui risque de nous piéger.
Bon, mais ceci étant, alors, pour les PECO, pour les pays d'Europe centrale et orientale, tu ne contesteras pas qu'il s'agisse de transition démocratique.
Non.
Bon. Non, alors, c'est un point d'acquis.
Mais tu m'as posé la question. Oui, je découvre les questions avec vous. Hein.
Bah oui, on n'est pas à TF1.
Voilà.
Donc j'avais une question à laquelle tu peux répondre sur la nature démocratique, effectivement, de l'évolution de la transition dans les pays d'Europe centrale et orientale.
Mais, c'est un peu l'objet, l'esprit de ce livre. C'est un peu l'objet, l'esprit de ce livre qui a toujours les deux profils des phénomènes, qui se réjouit de... Il ne peut que se réjouir de choses qui se sont passées. Mais... vous savez, dans notre métier, les sciences sociales, surtout politiques, finalement, on ne progresse que par la pensée critique. Tout ce qui n'est pas pensée critique est idéologie. Et l'idéologie, c'est par définition une idée fausse, un discours faux, par définition. Donc, sur quoi je me concentre, c'est comme sur l'éducation de mes enfants, de voir quelles sont leurs faiblesses, pour ne pas qu'elles deviennent déterminantes. Et donc, j'ai été toujours appelé, c'est ce qu'on appelle l'équation personnelle, ou le point de vue subjectif, dans un esprit de vigilance, pour voir quelles sont les limites et quelles sont les faiblesses, parce que j'ai vu les pièges, d'un côté et de l'autre, de l'ex-frontière, les pièges de facilité et les pièges dus au mode de fonctionnement actuel et moderne. C'est-à-dire que les gens de l'Est voulaient très vite conquérir la liberté et rentrer dans l'Europe, et les gens de l'Ouest voulaient également la même chose. Ils ont toujours réfléchi de façon idéologique, c'est-à-dire confortable. Tout le monde souhaite la même chose, donc... ce qu'on veut, on peut. Mais justement, ma philosophie est non. Tout ce qu'on veut. Et il n'y a pas plus de déterminisme volontariste qu'il y a de déterminisme économiste ou sociologique, etc. Puisqu'il y a ici des gens de différentes générations, différents sexes, et différentes formations. Quand je devais passer ce message à mes filles, je disais la façon d'arrêter de fumer. Maintenant, il y a une science et technique, comment arrêter de fumer. Et il y a des gens qui sont très déterminés à arrêter de fumer, mais ils n'y arrivent pas. Il y a le vouloir, il y a le savoir et il y a le pouvoir faire qui nous échappe. Donc, je suis parti de l'idée qu'il n'y a pas plus de déterminisme volontariste qu'il y a de déterminisme sociologique ou économiste, à la marxiste ou à l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai été sensibilisé par cette pression fébrile qu'on a exercée sur tous ces pays pour prouver vite leur caractère démocratique. Et ce que je veux dire, c'est une banalité médiatique, c'est-à-dire on a voulu qu'en 10 ou 20 ans, ils accomplissent une évolution qui s'est produite en 2 ou 3 siècles en Occident, c'est-à-dire qu'ils découvrent les libertés publiques, d'abord comme la phase libérale après la révolution libérale française de 89, nouvelle constitution, nouvel état de droit, après qu'ils découvrent la démocratie, comme ça a commencé après 48 en France, à la fin du siècle et au 20e siècle, et après ça qu'une culture libérale et démocratique s'installe petit à petit. Parce que quand on réfléchit comment notre modèle est né en France, il est né en 89, c'était une révolution libérale, pas démocratique. La démocratie était en marge pour satisfaire le peuple de la Bastille, le peuple de Faubourg. Mais c'était une révolution libérale, c'était le libéralisme qui a voulu avoir un régime politique conséquent, adéquat. C'est-à-dire, après le libéralisme économique, c'était le libéralisme politique, et il y avait les chartes, les droits octroyés. Il y avait des monarchies libérales, par la monarchie, par le pouvoir, qui sentait le rapport de force qui changeait et qui anticipait. C'était très politique. Il anticipait, il accordait de façon paternaliste les chartes. Et la démocratie, c'est-à-dire le recours à la souveraineté du peuple, au suffrage universel, est venu après. La Deuxième République, 48, Troisième République, il s'installe. Et le XXe siècle a mis en place la démocratie. Et ma vision des choses, c'est justement celle-là. Je vis notre régime comme libéral et démocratique. démocratique, comme juridique et politique, c'est-à-dire de droite et de gauche, si j'ose dire, de façon très familière, presque vulgaire. Et que c'est ça le grand compromis et le grand génie de notre modèle de fonctionnement, c'est d'avoir satisfait à sa façon, de façon équilibrée, aussi équilibrée que possible, les deux aspirations profondes de l'humanité, qui sont l'aspiration à la liberté, qu'on présente comme une aspiration naturelle et universelle, et puis après l'aspiration à l'égalité. Et si vous voulez, la fameuse culture de gauche, la fameuse culture de droite, la culture gouvernementale ou la culture oppositionnelle, c'est ça. La mouvance libérale, parce que le mot le plus juste et le plus rigoureux, c'est le mot flou de mouvance. Parce que dans les sciences sociales, la rigueur, c'est justement dans le flou, artistique ou scientifique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais dans le flou. Et nous pouvons toujours distinguer un genre de ce duopole, cette dualité qui sous-tend tous nos régimes, et on en parlera pour les pays de l'Est aussi, où il y a d'un côté la libérale, comme on l'appelait sur la 4e, au début de la 5e, le libéralisme classique, qui se réfère au droit de la nature, droit naturel universel, les libertés naturelles universelles, données par la nature des choses, ensuite par le droit qui consacre ses libertés, ensuite par le juge qui garantit ses libertés, et avec le juge, l'affaire est close. La Constitution consacre les libertés, le juge les garantit, et on rentre à dormir tranquille. Par la suite est venue l'aspiration à l'égalité. Et l'égalité ne peut exister qu'en politique. Comment voulez-vous postuler l'égalité dans un autre domaine que politique? L'égalité, c'est one man, one vote, c'est-à-dire un homme, une voix, et puis sur cette base, on décide du destin commun, on décide du choix des institutions, du choix des politiques publiques, etc. Et tout le génie profond de la démocratie, ça a consisté à équilibrer ces deux choses. La liberté juridique avec le juge comme figure tutélaire, et puis l'égalité politique avec la majorité comme figure tutélaire. Et puis jusqu'à nos jours, c'est un compromis, c'est une cohabitation de deux mouvances, c'est-à-dire l'une préfère la liberté, la met légèrement ou plus ou moins légèrement avant l'égalité, et l'autre préfère le collectif et met l'égalité légèrement avant la liberté. Tout le monde se réfère aux mêmes valeurs. Maintenant, on s'épanouit dans le patrimoine commun de valeurs, dans le consensus sur les valeurs, mais c'est une facilité, c'est un confort. Ce n'est pas un consensus sur les valeurs, c'est un consensus sur le compromis des valeurs. On s'est mis d'accord pour des combinatoires entre la liberté et l'égalité. Trop de liberté tue l'égalité, trop d'égalité tue la liberté. Et quand vous regardez la façon dont nous avons fonctionné par rapport à ce duopole que j'appelle mouvance, on voit toujours qu'est-ce que fondamentalement les uns reprochent aux autres. De transgresser un peu trop la valeur concurrente. Les libéraux disaient « oui, mais trop d'égalité tue la liberté ». Et les démocrates disaient, mais s'il n'y a pas assez d'égalité, la liberté est un vain mot. Et tout le temps, on s'est battu sur cette frontière sur laquelle s'affrontent les exigences de liberté et d'égalité, qui ne sont pas des valeurs qui vont de soi ensemble, qui très vite rentrent en contradiction. Et nous sommes habitués à réciter liberté, égalité, dignité, solidarité, etc. Mais le contenu substantiel de toutes ces valeurs est le résultat de profonds compromis historiques sur la cohabitation de ces valeurs et le mode de fonctionnement réel le fait découvrir tous les jours. Quand on pousse un peu plus loin les exigences de liberté ou quand on pousse un peu plus loin les exigences de justice sociale, d'égalité, etc. Et que très vite, ça rentre en conflit. Les libéraux pensent que la production bénéficie à tous si une économie est prospère, productive, etc. Tout le monde bénéficie de ses retombées. Et bien, les gens de gauche estiment que la distribution est aussi juste, équitable et aussi nécessaire que la production et qu'il n'y a qu'à prendre aux riches pour donner aux pauvres. C'est une caricature, bien sûr. Mais il fait chaud ici, je trouve que... J'aurais presque demandé l'autorisation à la salle d'enlever les vestes.
Eh bien, on va voter. Que ceux qui sont contre lèvent le bras. Voilà, tu as le droit à l'unanimité. Bien, ce que tu viens de dire me suggère deux remarques, deux questions. Première question, quand même, tu dis, finalement, on est arrivé à stabiliser un compromis sur les deux valeurs qui sont partenaires, finalement, un peu antagonistes, mais un peu partenaires, de liberté et d'égalité. Est-ce que ça signifie, est-ce qu'on n'est pas près d'une vision, là, de la fin de l'histoire, c'est-à-dire que ce modèle de la démocratie libérale à laquelle tu te réfères, auquel tu te réfères, serait précisément, au moins en tant que modèle, au moins en tant que modèle théorique, la fin de l'histoire. Est-ce que ce compromis stabilisé est destiné à durer? Ça, c'est ma première question.
Ça, je te retrouve dans cette question. Non, parce que de toute façon, je suis déjà prévenu contre le sens de l'histoire. Tu sais. Et donc, je ne me pique pas ce jeu. Vraiment, la prospective, même si c'est une pulsion instinctive, je m'y réfère. Mais ce que je constate, c'est que le modèle ne fonctionne plus bien parce que les déséquilibres entre l'économique et le politique, entre le marché et l'État, le déséquilibre entre l'exigence libérale et l'exigence démocratique est trop fort maintenant. Et c'est ce déséquilibre qui explique, à mon sens, le mauvais fonctionnement du système en tant que tel, parce qu'il a été trop perturbé, comme quelquefois il a failli l'être au cours du XXe siècle, où le côté démocratique avait tendance à étouffer le côté libéral. Après les guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelait à tort la démocratie économique, la démocratie sociale, l'interventionnisme, planification, etc. Et ça a été un déséquilibre du XXe siècle dans le sens inverse. Mais la démocratie, quand ça est quand même sortie, il y a eu les dénationalisations, les réglementations. Tandis que maintenant, je trouve que depuis le XVIIIe siècle jusqu'à maintenant, jamais le déséquilibre entre les deux mouvances, entre les deux piliers ou les deux paradigmes de notre modèle n'a été aussi grand. C'est-à-dire les déséquilibres entre l'économique et le politique, où le politique n'a plus de prise pour cadrer l'économique, alors qu'on sait depuis l'histoire que le marché ne s'autorégule pas, que le marché est plutôt suicidaire, qu'il n'a pas les mécanismes d'autorégulation, qu'il lui faut l'intervention du politique, et que donc on se contente des libertés publiques, dans l'adoration de l'état de droit qui a constitutionnalisé les libertés individuelles et qui a institué en France un juge constitutionnel qui est maintenant un véritable juge et qui garantit ces libertés. Et on oublie que le juge est toujours problématique en démocratie. C'est une problématique historique constante, même aux États-Unis, là où ça a l'air de fonctionner. Il faut quelqu'un qui garantit le juge. Et qui garantit le juge, finalement, c'est le système démocratique, dans ses fondements, qui est respectueux des minorités et avec les minorités de l'individu aussi. Mais en passant par ce stade de la garantie politique, de la garantie structurelle et systémique, et qui permet au juge d'être indépendant. Parce qu'il n'y a de juge crédible qu'en démocratie. Et encore, c'est le point faible de toutes les démocraties. Donc, c'est cette éclipse du démocratique par rapport au libéral, du politique par rapport à l'économique, parce que l'essence du libéral, c'est quand même plutôt économique que politique. Si on veut essayer de confronter, à mon avis, tu vois les visions des choses, les libéraux sont venus aux politiques nécessairement, parce que ce ne sont pas des anarchistes. Donc, il fallait une approche politique minimaliste. Il fallait que quelqu'un garantisse l'ordre et la sécurité. Laisser faire, laisser passer, etc. C'est pas spontané. C'est organisé par un pouvoir politique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je l'ai perdu de vue en cours de route.
Sur la question du compromis, de la portée si historique du compromis.
Je vais enlever là. J'ai pas l'habitude d'être si bien habillé.
Et, oui, cette question, la deuxième question, enfin, c'est finalement par rapport à cet état de réalisation d'un compromis entre la liberté et l'égalité, concrètement, où en sont les pays d'Europe centrale et orientale aujourd'hui, enfin, Quel est le bilan, quel est le point qu'on peut faire de la situation telle que tu la vois ? Évidemment, elle est hétérogène. Bien entendu, on parle là d'une poignée de pays, une douzaine de pays. Donc non, on n'est pas.
Ce n'est pas sur la question que je réfléchis, c'est sur la réponse. Comme dans toutes les affaires qui nous concernent, dans tous nos objets, c'est l'ambiguïté qui éclaire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'ambiguïté.
Il va falloir quand même que tu nous expliques un certain nombre de paradoxes. Tout à l'heure, tu nous as dit que dans les sciences sociales, c'est le flou était la rigueur. Maintenant, tu nous dis que l'ambiguïté explique et dévoile les choses. Et j'aimerais bien quand même, on y reviendra, si tu permets.
Non, il y a une ambiguïté originelle d'abord. La question concernait la démocratie, le rapport entre la démocratie et le libéralisme. Le libéralisme, je parle le démocratisme par symétrie sémantique. Au départ, il y avait, parce que dans les années 90, au moment de ces fameuses révolutions anticommunistes ou plurilibérales, l'aspiration des pays de l'Est, c'était surtout une aspiration à la liberté. Et alors, comment je perçois moi, comment j'éclaire moi, je m'explique moi ce constat, c'est que les 50 années du communisme ont fini par produire une usure du discours et du mode de gouvernance ou de gouvernement en insistant sur la démocratie socialiste, sur l'égalité. Vous voyez, alors les pays ont été gavés et usés par ce discours égalitariste et démocratique, pro-démocratique, alors que la réalité était catastrophique. Et c'est cette schizophrénie entre le discours de plus en plus optimiste, de plus en plus ambitieux, et la réalité de plus en plus déclinante, de plus en plus catastrophique, qui a induit l'implosion. Il a suffi d'une petite mèche pour que les choses se déroulent en 89. La mèche, c'était Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Ça, l'idée me vient maintenant. Souvenez-vous, à l'époque, la crise économique des années 70, la grande crise pétrolière. Et quel était le message de l'opinion, du discours ambiant à l'époque? C'est que Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont trouvé le moyen de sortir de la crise. Référons-nous à l'époque, dans les années 70-80, c'était la sortie, la solution néolibérale de sortie de la crise. Je vois que l'éminent économiste, mon collègue Claude Lacour, fait la moue quand je dis ça, mais on en discutera après. C'était ça, la solution néolibérale. Et de là est venu le prestige, de là est venu le prestige du libéralisme, où tout le monde s'est précipité. Donc, dans les années 90, vous voyez, le libéralisme avait le vent en poupe en Occident, qui était une logistique très importante pour ce qui se passe à l'Est, à la fois sur le plan idéologique et sur le plan technologique. Et il y avait donc cette insistance sur la liberté, et il y avait une déception du discours démocratique socialiste sur les pays de l'Est et un enchantement du discours libéral à l'Ouest. Donc le début s'est passé sous le signe de la liberté et du droit, parce que les pays ex-communistes, l'emprise du pouvoir des partis communistes a beaucoup faibli, et dans le jargon de nos collègues, on dit que ce n'était plus des pays totalitaires, c'était des pays simplement autoritaires parce que l'idéologie n'a pas eu de prise. Moi, je continue à croire que c'était encore des pays totalitaires parce que même si personne n'y croyait, et même s'il n'y avait pas une obligation d'activisme idéologique comme il y avait autrefois, il n'y avait pas une possibilité d'expression pluraliste, et c'est ça. Dans certains régimes, vous pouvez, autoritaire, vous pouvez pratiquer votre religion. Si vous ne dérangez pas le pouvoir, ça ne dérange pas le pouvoir. Dans les pays communistes, ce n'était pas possible. Et ainsi de suite. Donc, je trouvais que c'était...
Oui, mais enfin, ça, c'est parce que les régimes autoritaires se définissent uniquement négativement comme étant ni des démocraties, ni des États totalitaires. C'est-à-dire qu'il y a une gamme tellement infinie d'États autoritaires qu'effectivement, tu en trouves dans lesquels on peut exprimer une différence. Mais enfin, la caractéristique commune de ces régimes autoritaires, c'est que politiquement, on ne peut pas déroger.
Politiquement, non. Mais culturellement, oui. Religieusement, oui.
Oui.
Linguistiquement, oui, etc. Ouais. Alors, qu'est-ce que je disais là ? Donc, ces révolutions sont nées sous le signe de la liberté. Et vraiment, sans faire du réductionnisme, on peut dire que la devise à l'Est, c'était laisser faire et laisser passer. Les gens voulaient la liberté et le bien-être. Et ils pensaient acquérir la liberté par les nouvelles constitutions et le bien-être par l'Europe, en quelque sorte, par la logistique européenne occidentale. Et donc, dans ça, il n'y avait pas une prise de conscience du fondamental apport de la démocratie pluraliste pour ce régime libéral, pour ce constitutionnalisme libéral. On a estimé que le pluripartisme, c'était la démocratie. Il y avait des pays qui connaissaient non seulement par centaines, tous les pays ont connu des partis politiques par centaines, mais en URSS, il y avait à un certain moment 6000 partis politiques dans... 6000 partis politiques. Il y avait souvent qui squattaient les locaux, qui n'avaient pas de téléphone, etc. Mais il y avait à un certain moment une pulsion à créer des partis politiques comme preuve de la liberté. Et l'ambiguïté de l'attitude occidentale, c'était de se contenter de ça. Pourquoi ? Parce que finalement, dans l'ambiance générale de nos jours, le politique était en déclin. Et la démocratie est politique. Qui dit déclin du politique, dit nécessairement le déclin de la démocratie. C'est ça dont on n'a pas pleinement conscience de nos jours. Parce qu'on constate facilement, on dit, ouais, l'économique domine, le politique décline. Mais le politique, c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est la liberté. C'est la garantie politique de la liberté. La garantie politique du juge de son indépendance et de son efficacité. Donc, elle est née sous ce signe-là, et peut-être que ni d'un côté ni de l'autre, on va parler probablement du système politique, on n'a pas fait attention à cet autre profil de notre régime, qui est le profil démocratique et politique pluraliste, qui est le soutien de la liberté, qui est la logistique de la liberté, alors que nous, on s'est contenté, comme à l'Est, des constitutions et des belles phrases. Et ils ont vécu sur cette ambiguïté parce que depuis toujours, le discours des pays socialistes a beaucoup insisté sur les libertés, en estimant que les seules libertés réelles, c'était celles des pays socialistes, où l'égalité permettait de jouir pleinement de la liberté. Et la constitution stalinienne de 1936, lui, il a aussi fait la confusion, parce qu'il n'avait pas une culture suffisante probablement de ça, et il a déclaré que cette constitution de 1936 était la constitution la plus démocratique du monde. Pourquoi ? Il voulait dire libéral, mais il a dit, je pense, il aurait dû dire libéral. Parce qu'il y avait dans cette constitution une vingtaine d'articles sur la liberté publique, absolument schizophrène, c'est-à-dire que dans aucune constitution libérale occidentale, on ne peut trouver d'équivalent aujourd'hui. Il y avait trois alinéas. Il y avait un alinéa qui proclamait la liberté de presse, de réunion, de sûreté personnelle, etc. Il y avait un alinéa juridique, les garanties juridiques de cette liberté, et puis il y avait un alinéa purement socialiste, des garanties matérielles de liberté. Alors quand vous lisez ça, c'était vraiment le bout du monde, le bout de l'histoire, la fin de l'histoire. Alors, à l'époque des grands procès staliniens, à la même époque où il célébrait cette constitution la plus démocratique du monde, où les 27 articles sur les libertés étaient structurés comme jamais aucune constitution libérale, il disait dans le procès des médecins juifs, ils sont coupables, camarades. Et la meilleure preuve qu'ils sont coupables, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Ils les ont toutes fait brûler. Oui, c'est pour dire... Bon, c'est humoristique, c'est pour dire qu'il y avait un aspect caricatural dans cette chose, et ça, c'est la part de la culture héritée. On ne peut pas supprimer d'un coup de constitution, d'un coup de décret, on ne peut pas supprimer une longue histoire. Et notre erreur dans le décodage ou dans l'interprétation des pays de l'Est, c'était ça. On a pensé qu'il tombe vierge dans les bras de la démocratie libérale occidentale. Comme si, je disais à mes étudiants, un mariage forcé de 50 ans pouvait laisser les femmes vierges, au moins même mentalement. Non, un mariage forcé, il marque autant, sinon plus, qu'un mariage accepté ou volontaire. Et même en supposant que les sociétés, globalement, n'étaient pas adhérentes, ce qui reste à discuter, parce que je pense qu'au début, il y avait un élan socialisant qui était assez sincère, qui s'est vite effrité avec le temps et l'histoire. Donc, c'est né dans une grande ambiguïté, et cette ambiguïté-là, qui était pro-libérale, et un peu fatiguée du discours démocratique, eh bien, il a freiné peut-être l'évolution du pluralisme. Mais en même temps, je ne sais pas si tu penses m'interroger sur cet aspect de politique.
Il vaut mieux que tu formules la question, parce que comme non, ça, non. Tu pourras y répondre.
Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'on sait, au moment où il y avait cette éclosion des partis politiques qui poussaient comme des champignons, on s'est un peu arrêté en Occident en disant, voilà, la liberté s'est installée. Et il y a 150 ou 250 partis politiques en Pologne, il y en a 120 en Serbie, il y en a, etc. Alors que c'était justement le piège. C'était le piège parce que on ne peut pas décréter des partis politiques. Et les partis politiques, on ne peut pas les créer, on ne peut pas les improviser. Les partis politiques sont censés, et même le maître qui m'a enseigné la science politique, notre maître, Maurice Duverger, je me suis souvenu de son propos, et c'était une des rares occasions pour le blâmer rétrospectivement dans mon fort interne. Je me rappelle Place Bébelin, il disait, moi j'étais fraîchement immigré, et il disait, mais qu'on donne la liberté aux pays de l'Est, et on va trouver les radicaux du centre, les radicaux de gauche, les radicaux de droite tout de suite, etc. C'était fou, à la limite, même un peu de postuler comme ça. Alors que c'est un terrain qui a été labouré par un bulldozer pendant 50 ans, et les traces sont restées. Avant que quelque chose éclose, il a fallu semer, il a fallu attendre. Les partis politiques sont dans tous les pays de l'Est, très largement improvisés aujourd'hui. Ce sont des discours politiques très au point, parce que ce sont des gens intelligents qui savent jouer des discours politiques, mais ça ne correspond pas à une mouvance sociologique et culturelle profonde où les gens se situent presque historiquement et globalement dans des filières de sensibilité politique. Je me rappelle.
Mais là, est-ce que c'est pas une caractéristique un peu générale finalement de l'évolution des partis un peu partout? Si tu regardes les pays occidentaux les plus classiques, si tu regardes la France, finalement la réalité des partis politiques est très discutée aujourd'hui. Le Parti socialiste est considéré comme essentiellement un club d'élus. On pourrait en dire autant probablement de l'UMP. Ce sont des rassemblements qui sont pour le moins hétéroclites, l'un comme l'autre. Je dois dire qu'ils sont sur des lancers, évidemment. Ils ont repris des appareils. Quant à la multiplicité des partis, chaque élu important aujourd'hui a créé son propre parti pour des raisons de financement. On a, évidemment, tout ça est fictif, on le sait. Mais enfin, on a cette espèce de sissiparité, là, comme ça, très pragmatique, qui fait que la notion même de parti politique comme expression d'un mouvement social, ici aussi, est au moins, disons, en déclin. Elle est fragilisée.
Je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, je l'ai écrit avant que tu le dises.
Bon. C'est dans tes écrits que j'ai trouvé. C'est pour
non,
ça
non,
que
non,
je...
Non, non, non. Non, oui. Non, mais bien sûr que non. Je suis absolument d'accord. Et si je peux me permettre une métaphore un peu facile, un peu laxiste, un peu grossière, on retrouve une communauté de situations entre les jeunes démocraties de l'Est ou d'ailleurs et les vieilles démocraties européennes et occidentales, comme la vieillesse retrouve la jeunesse, voyez. C'est-à-dire il y a certaines faiblesses de la vieillesse qui retrouvent certaines faiblesses de l'adolescence. Et c'est vrai que je suis absolument sensible à ça, que les identités politiques se déstructurent, les identités politiques aidées par l'individualisme néolibéral. Vous savez, c'est l'individu qui compte. Le parti, déjà, c'est une concession au collectif, au social, c'est la dilution du génie individuel. Mais le véritable génie, l'individuel, le collectif, déjà, c'est une concession à l'emprise du pragmatisme et à la nécessité de l'action et de l'ordre. Donc, je suis absolument d'accord. Mais je trouve que les situations ne sont pas pareilles, parce que, malgré tout, dans la culture historique des démocraties occidentales, il reste quelque chose de ce pluralisme partisan, traditionnel, tradition radicale, etc. Et tu vois, il reste quelques traces. Je suis absolument d'accord et je déplore cette évolution, hein, mais Mais tandis que dans les pays de l'Est, il n'y a pas ça. Il y avait bien sûr entre les deux guerres quelques expériences dans pas mal de pays qui ont navigué entre les dictatures civiles et militaires et les tentatives de la libéralisation ou même de la démocratisation des régimes. Mais tout ça, c'était des tentatives, des pulsions. Mais une culture, ça ne se fabrique pas en une génération, ni en deux, ni peut-être en trois. Une culture, c'est un processus historique très long, très long. Et c'est ça qu'on a complètement perdu de vue, à mon avis, de nos jours. Pour les pays de l'Est, on a dit, voilà, les jeunes cadres qui arrivent, ils sont nés après la révolution de 90. Mais ça n'a aucune pertinence véritable. Ils sont marqués, et leurs enfants seront peut-être encore marqués par ça. C'est ça ce que j'appelle le déterminisme volontariste. Ils n'ont rien connu d'autre. Mais si, c'est des choses subtiles. L'acquis se transmet. Même les culturalistes aujourd'hui, les plus d'avant-garde, admettent que l'acquis se transmet et qu'on ne peut pas tourner les pages comme ça impunément dans l'histoire. Vous voyez,
mais alors, il faut combien de temps pour arriver à changer une culture politique dans un cas comme celui des pays de l'Est, où finalement, pour certains pays au moins, avant les 50 ans de communisme, il y a eu au moins des tentatives d'installation d'une démocratie parlementaire. Tchécoslovaquie, par exemple.
Oui.
Donc, il y a eu presque 50 ans aussi.
La Yougoslavie aussi, oui. Pendant la guerre.
Donc, il y a eu presque 50 ans aussi d'installation d'une démocratie parlementaire. Est-ce que ça ne se compense pas? Est-ce que... Je ne sais pas.
Deux secondes. oui. C'est difficile à interpréter. Là aussi, c'est un repère un peu superficiel. C'est vrai que dans beaucoup de pays, je me rappelle, j'avais provoqué la grande colère d'un collègue espagnol quand j'ai dit « mais l'Espagne n'avait pas de tradition démocratique ». Et la tradition républicaine espagnole, etc. Bon, alors, je n'ai rien dit parce que c'était plutôt amical, ce n'était pas un débat intellectuel. Mais les pays de l'Est aussi. Mais nous avons connu... moi, j'ai même écrit sur la genèse de la démocratie représentative libérale et parlementaire en Serbie au XIXe siècle, c'est-à-dire très tôt. Et ça commence par une leçon pour le... Mais si je veux être plus exigeant, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux guerres? Entre les deux guerres, c'était encore une démocratie largement importée, c'est-à-dire les alliés vainqueurs, les Français et l'Anglais, ont voulu imposer, jusqu'à la Turquie d'ailleurs, qui a été vaincue, le régime de la démocratie parlementaire, sous surveillance et sous tutelle. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'évolution type, c'était différent selon les moments et les pays, mais l'évolution type, c'était une oscillation entre les régimes parlementaires et les dictatures, et les régimes autoritaires, disons. Mais c'était les dictatures souvent d'opérette, c'était les dictatures quelquefois la sud-américaine, les dictats blancas et pas les dictaduras, en quelque sorte. Mais c'était... Alors, j'ai voulu vraiment me faire cette idée, parce que c'est un argument que j'ai souvent trouvé dans la littérature. Ils disaient, mais ces pays ont connu l'expérience démocratique dans le passé, aussi bien pour l'Espagne que pour ces pays. Oui, mais ce n'est pas la même expérience. Ce n'est pas une expérience historiquement stabilisée, et historiquement consolidée. C'est ça qui compte. C'était une expérience événementielle, mais pas véritablement une expérience culturelle, à mon point de vue. Et vous avez tout le profil type de l'État centre européen entre les deux guerres, en dehors de la Tchécoslovaquie, c'était la guerre, la constitution parlementaire, qui commence par accorder les libertés juridiques. Les libertés juridiques font prospérer la démocratie politique. Et dès que la démocratie politique commençait à produire ses effets, hop, il y avait un coup d'État, militaire ou civil, qui prenait le pouvoir. Alors, on commençait à zéro. Le coup d'État ne pouvait pas durer longtemps parce que l'ambiance était locale et internationale était quand même hostile, un peu comme maintenant. Alors, on revenait au régime parlementaire. C'est l'image que je m'en suis faite. à l'âge de la maturité, c'était dans les années 90, on recommençait. Alors, on revenait à la constitution libérale, le respect des libertés publiques, les libertés publiques données sur les partis politiques, les partis politiques construisaient leur crédibilité, etc. Et puis, dès que la démocratie commençait à fonctionner et que la majorité devait être destituée par l'opposition et l'alternance a joué, eh bien, il y avait un coup d'État pour empêcher l'alternance, etc. Donc, tout ce qu'on peut tirer... selon ma sensibilité et mon point de vue, c'est de dire qu'il y avait une pulsion démocratique et libérale, mais qui n'a pas pu se stabiliser et se consolider. Mais ça ne suffit pas pour dire qu'ils avaient connu une culture démocratique et libérale comme culture prévalente. Je veux pas, moi, c'est le souci de l'idée juste qui prévaut sur toutes les autres inspirations idéologiques ou émotionnelles.
Mais est-ce que le communisme était une culture intériorisée ? Ou est-ce que c'était un régime plaqué, un régime autoritaire plaqué, et au fond pas approprié vraiment par les sociétés civiles ? Ça, c'est...
Bon,
c'est ma dernière question. Après, on va donner la parole à la salle qui va pouvoir s'exprimer.
À mon avis, personne ne peut répondre à cette question. C'est selon ses propres sensibilités et croyances. Je dirais vraiment le point de vue subjectif qui est le mien. Je pense qu'au début, le communisme, ce sont des contrées, des aires, des régions slaves dont la philosophie est prédisposée à l'idée, à la doctrine, à l'idéologie, un peu comme en France d'ailleurs, qui souffrent dans la démocratie parce qu'il y a une trop grande prédisposition à l'idée, donc à l'idéologie, donc à la doctrine, donc à la théorie, donc à une exigence dogmatique. Une exigence dogmatique surévaluée par rapport aux nécessités de concessions pragmatiques que demande la démocratie. Tu vois, la faisabilité de la chose. Ne pas aller jusqu'au bout de son dogme, parce qu'il y a plusieurs dogmes à concilier, de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est ça. Et il faut concilier plusieurs idéologies, donc aucune ne peut aller jusqu'au bout d'elle-même. Et donc, je pense qu'au début, l'idéologie communiste avait une implantation sociale tout à fait sincère, et peut-être massive. Et c'est par la suite que le système s'est usé par ce décalage entre le discours monopoliste, idéologique, c'est le titre de l'ouvrage, idéologique, ça veut dire quoi ? Il est unique et il n'a à répondre que devant lui-même. Et il pouvait être parfaitement cohérent. Comme toute idéologie, un discours idéologique séduit par quoi ? Par la qualité de sa promesse, la qualité des valeurs qu'il développe, la liberté ou l'égalité jusqu'au bout, parfaitement cohérente, et par la cohérence, justement, du discours argumentaire. Mais l'idéologie, elle se développe dans le vide, dans l'éther intellectuel et psychologique. Dès qu'elle est au poste de commande, elle doit faire des concessions. Donc c'est ça la différence entre l'idéologie et la réalité, et la théorie qui théorise la réalité et non pas l'idéologie. Parce que toutes les idéologies sont belles en elles-mêmes, au sens où toutes les femmes sont belles en elles-mêmes. mais différentes. Voilà. Et donc je pense... Alors ça, il reste un problème. Chacun répondra selon sa sensibilité. Je pense qu'elle a été largement intériorisée, même si on doit considérer que c'est... Jean, tu peux t'asseoir ici.
Tu dois t'asseoir ici, en raison de la question.
You are welcome. Elle a été intervenue... Il faut un peu de soupape.
Oui,
elle a été, pour répondre à ta question... Je pense qu'elle a été intériorisée, ne serait-ce que de façon perverse, parce qu'il y avait la peur. La peur était intériorisée, et sur la base de la peur intériorisée, ça, un psychologue, un psychiatre qui pourrait me dire si c'est une bonne intuition ou si c'est une intuition fausse, elle a été intériorisée. C'est-à-dire, la culture, c'est quoi ? C'est les réflexes comportementaux. Elle se réduit finalement... tout le choix des valeurs, de philosophie, des idées, se réduit finalement à des attitudes et comportements politiques. C'est-à-dire, je disais toujours aux étudiants par le souci de facilité de pédagogie, la culture, ce n'est pas la manière de réfléchir, c'est la façon de réagir, finalement, qui est encore plus percutante. La façon de réfléchir, elle est davantage dans les réflexes que dans les réflexions. Parce que les réflexes sont souvent plus significatifs. C'était dans la réflexion, quelquefois, on fait se tromper soi-même. On veut se trouver plus beau que nature, plus cohérent que nature. Et finalement, quelque part, le conscient et le subconscient agissant, au niveau des réflexes, on ne retrouve pas toujours les ambitions et les cohérences de sa propre réflexion. Donc, au niveau des réflexes, j'aurais tendance à dire que, malgré tout, de façon perverse, c'est sur la base de la peur, par la suite, de l'adhésion au début et de la peur induite par les systèmes par la suite, elle a été intériorisée de façon perverse et c'est très difficile. C'est un peu, j'aime pas la vulgarisation par les métaphores faciles, c'est un peu la femme qui est contrainte à un mariage forcé au bout de 50 ans. Est-ce qu'elle a intériorisé la culture du mariage? Mais oui, quelque part, elle a intériorisé. Tout son être a été formé dans cette contrainte et dans cette insatisfaction, etc. Elle ne peut pas l'oublier. C'est pour ça qu'elle a du mal à construire un nouveau mariage après, parce qu'il y a la culture héritée du mariage. C'est dans ce sens que j'ai tendance à réfléchir. Mais je n'ai pas la garantie ni le monopole de la pertinence.